Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Laser Punch consacré à WandaVision épisode numéro 7. Je crois qu'on peut dire que c'est un épisode, j'allais trouver un adjectif démoniaque, délicieux, intéressant en tout cas. Je suis Patrick Béja.
Insidieux.
Insidieux, perfide, un petit peu méchant. Et évidemment, si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous encourage à aller le regarder parce qu'on va absolument tout spoiler sans aucun regret. Donc, comme d'habitude, on fait des débriefs de tous les épisodes du MCU et des films et de tout dans ce podcast Super Laser Punch. Super Laser Punchy ! Et aujourd'hui, on va parler de WandaVision épisode numéro 7. Johan, comment ça va ? T'es en forme ?
Je suis en forme, ça va super bien.
Tu sais quoi ?
Non, c'est de plus en plus difficile, semaine après semaine, d'attendre le suivant.
Ouais, et d'attendre notre débrief en plus. Et ça, c'est le moment de plaisir.
Heureusement qu'il y a le débrief au milieu.
C'est ça, exactement. C'est le truc qui vous aide à attendre l'épisode suivant. Tu sais quoi ? Je pense qu'on va être très méchant avec notre audience et qu'on va faire un truc tout de suite. Un truc qu'ils vont, pour lequel ils vont nous détester. Qu'est-ce que tu en penses ? On se lance tout de suite ?
Je pense que c'est très insidieux, Patrick.
Écoute, je pense que c'est clair que voilà. It's been Agatha all along. It's been Agatha all along. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est... C'est incroyable, cette chanson. Elle te reste dans la tête.
Je l'ai chantée tout le week-end.
Mais tu sais, c'est marrant parce que tu m'as envoyé un message il y a genre 2 jours en disant « Mais je l'ai dans la tête tout le temps. » Ma femme m'a dit genre 2 heures plus tard « Mais j'ai cette chanson dans la tête tout le temps. » Moi, je l'ai dans la tête aussi tout le temps. Et genre tout l'Internet, il ne peut pas en parler parce qu'évidemment, il y a la fin que j'aime bien là. Il y a la fin que j'aime bien. And I killed Sparky too. Voilà, c'est magnifique, c'est Agatha all along, et tout l'internet est complètement fou avec cette chanson qui te reste dans la tête, mais tu peux pas en parler, parce que si tu dis même une ligne, c'est un spoiler évidemment.
Ah bah monstrueux. Oui, là c'est... le refrain est un spoiler.
Un tout petit peu. Bon alors, voilà, après cette introduction, on va reparler de la fin évidemment tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on commence par ton impression sur l'épisode en général, ce que t'en as pensé. Moi je l'ai trouvé un petit peu différent, mais dis-moi ce que t'en as pensé, toi, cet épisode 7.
Eh ben, un peu comme toi, hein, ma première réaction quand j'avais fini de regarder, je m'étais dit que c'était quand même en dessous de ce qu'on avait eu habituellement. Mmh. Et en même temps, je pense que c'est surtout dû au fait que c'est un épisode qui est assez long, hein, par rapport au reste des épisodes. Enfin, pour l'instant, c'est quoi ? C'est 40 minutes, peut-être un peu moins,
un petit peu moins, 35 minutes.
Et je trouve que du coup, là, il y a peut-être moins de choses que d'habitude pour à la durée. Et moi, j'ai eu une sensation de « Ah, ok, c'était un petit peu... » Il y a eu voilà, des hauts, des bas. Alors, il y a des choses que j'ai adorées dedans. Il y a eu des révélations super intéressantes. Il y a eu des choses très drôles. Mais autour de ça, j'ai trouvé ça un peu longué. Et il y a pas mal de choses un peu décevantes. Je vais y revenir un peu après.
À quoi tu fais référence, ouais. Tu sais, moi, je l'ai trouvé, je suis assez d'accord sur le rythme. C'est vrai que c'est un rythme qui est beaucoup moins soutenu que les 3 derniers épisodes, ou même que les... En fait, c'est le 4 et le 5 qui étaient vraiment hyper excitants et hyper surprenants. Mais c'était surtout que c'est ceux-là qui étaient hyper tu vois, qui en donnait énormément. Et celui-là, il est juste un petit peu plus normal. Mais moi, il y a un truc que j'ai vraiment apprécié et que j'ai pas entendu du tout dans les analyses que j'ai vues et lues et entendues après, parce qu'évidemment, on dit c'est le moment de milieu entre les deux épisodes pour ce podcast qu'on vous fait avec lequel on vous fait attendre l'épisode suivant. Mais on l'utilise aussi ce temps pour regarder, analyser, comprendre tout ce qui s'est passé, toutes les références. Donc c'est important, mais dans tout ça, j'ai très peu entendu le fait que ce qu'ils font cinématographiquement avec cet épisode est assez incroyable. Quand je dis cinématographiquement, c'est pas l'image, mais en fait, ils utilisent le format sitcom qui est pur 100% sitcom, genre Modern Family, un petit peu The Office avec le générique. Mais ce qu'il y a en dessous, encore plus que pour les épisodes précédents, c'est pas drôle du tout. À aucun moment, c'est drôle. Bon, il y a peut-être une ou deux scènes où tu souris, mais genre avec le cirque et les trucs comme ça, et Wanda, et Vision et Darcy. Mais tout le reste, c'est pas drôle. C'est juste Wanda qui est complètement déboussolée, qui est dans la déprime la plus totale, qui abandonne ses enfants, qui... Tu vois, c'est hyper... C'est encore plus dark que tout ce qu'on a vu auparavant, et c'est pas drôle. Et l'enrobage est complètement fidèle au sitcom, genre drôle. Et ce décalage, j'ai jamais vu, en fait, peut-être que c'est moi qui manque de culture cinématographique, mais j'ai jamais vu un film ou une série qui utilisait un format à ce point, parce qu'il y a déjà eu des détournements de format, mais là, c'est même pas qu'ils détournent la sitcom et qu'ils en font un truc, genre, qui utilise les codes pour dire quelque chose de pas drôle. C'est vraiment, tout est censé être drôle, mais le fond l'est juste pas du tout. Et ça, j'ai trouvé hyper intéressant et hyper ingénieux. Et vraiment, au niveau créatif, ça m'a frappé, quoi.
Pour moi, alors ça, c'est de la comédie, moi, que j'aime beaucoup. Justement, quand t'as des formats comme ça, ou quand t'as justement de l'humour, mais qui sert un propos assez dark. Moi, je retrouve ça dans les dernières saisons de Kaamelott, par exemple.
J'ai pas vu Kaamelott, tu vois, c'est l'une de mes lacunes. Bah,
tu vois, la série a commencé par un enchaînement, on va dire, de sketchs humoristiques autour de ces personnages-là. Et au fur et à mesure, l'histoire s'est étoffée. Et à la toute fin, vers la saison 5, ça parle de suicide, de dépression, d'enfants perdus. Enfin, c'est très, très dark. Et le personnage est très, très déprimé.
Mais
t'as toujours cet enrobage d'humour. Et l'humour est présent et tout ça.
Mais c'est ça que je veux dire, c'est que dans cette série-là, dans WandaVision, enfin dans cet épisode, il n'y a pas d'humour. Je pense que certains d'entre vous le reverront peut-être après avoir écouté cet épisode, mais vraiment, c'est pas qu'ils détournent le format, c'est qu'ils utilisent le format tel quel, mais rien de ce qu'elle dit Wanda n'est drôle. Rien de ce que disent les jumeaux n'est drôle, rien de ce que dit Agnès n'est drôle, c'est pas drôle, du tout, à aucun moment. C'est pas genre on fait de l'humour, mais c'est de l'humour noir. Tu vois, c'est juste pesant, déprimant. Et pourtant, le format est celui de...
T'as quand même des touches que je trouve assez drôles, ou des choses, soit volontairement ou involontairement, mais tu vois, typiquement, justement, tu parles de d'Agnès, quand elle vient chercher les enfants, elle fait une blague sur le fait qu'elle ne mord pas les enfants.
Oui, ça, c'est marrant, ouais.
Et qu'après, elle fait un témoignage face-cam pour dire que si j'ai déjà mordu un enfant.
Oui, c'est vrai. Il y a quelques pointes comme ça, je l'avoue. Ouais, mais en tout cas, autour du personnage de Wanda, j'ai trouvé que... Enfin bon, bref. Non, tu vois, il y a des moments où on se dit...
Déprimé complètement.
C'est presque... Tu rigoles parce que tu es conditionné par le format pour rigoler parce que tu as vu Modern Family et ce genre de sitcom. Mais quand tu t'arrêtes deux secondes, tu dis « Ah mais non, en fait, ça, c'est pas drôle, tu vois. » Enfin bref, je sais pas, on va pas faire tout l'épisode dessus, mais m'a marqué.
Mais oui, en tout cas, t'as raison. Le ton, il est quand même bien différent et clairement, on se dirige vers du dramatique plus que de la comédie. Les choses se mettent en place en même temps. On a un cliffhanger. Enfin, la situation se dégrade. Donc, tout va mal. Il y a à la fois, on a le soir de l'extérieur qui s'apprête à lancer, on sait pas quoi. Donc, est-ce que c'est une bombe nucléaire ou est-ce que c'est une arme de leur crew ou je ne sais quoi qui vont lancer. On a les enfants qui sont enlevés, enfin qui disparaissent.
Bah, on va y venir.
Il y a plein de choses, quoi.
À propos du truc qui se dégrade, c'est difficile à remarquer si on ne suit pas les recaps qui passent des heures et des jours à faire ça, mais le Previously on WandaVision, c'est Wanda qui le dit à chaque fois, et à chaque épisode, ça devient un petit peu plus déprimé. Et sur celui-là, vous pouvez aller le réécouter, c'est vraiment Previously on WandaVision. C'est vraiment genre, elle en peut plus, là.
J'ai l'impression qu'ils ont pris, qu'elle a fait sa voix de sa personnalité de l'épisode pour faire à chaque fois le.
Exactement, c'est ça, ouais. Alors, bon, commençons à partir un petit peu chronologiquement. La première scène, le premier segment, c'est donc, on n'a pas besoin de faire chaque élément de chaque scène, mais c'est donc Wanda qui se réveille avec les jumeaux qui sont en train de jouer et on se rend compte que tout est en train de se détraquer dans l'univers factice qui est créé par, on sait toujours pas qui à 100%. Les manettes se transforment, se détraquent. Et d'ailleurs, dans toutes les analyses que j'ai vues, c'est marrant parce que c'est l'époque qui change, il y a 10 ans, ça n'aurait pas été ça. Les gens savaient nommer chaque manette du truc qui se déglingue dans les mains des gamins. Bon, c'est peut-être aussi parce que le public est un peu geek, mais tout le monde pouvait dire « Ah, manette Wii, manette GameCube, manette Atari et puis le Uno ». Et puis, Wanda se lève, elle fait ce discours, mais là encore, super dark avec ses enfants, mais c'est vraiment genre, je ne sais rien, je ne comprends rien. Et les enfants, tu vois, ils font « mais ça doit être hyper angoissant de te dire que ta mère, elle est complètement déglinguée. Là, tu te dis, il y a un truc qui ne va pas. » Et elle dit, bien sûr, elle a compris que Pietro n'était pas Pietro. Et elle dit « Ne faites pas confiance à cet homme, ce n'est pas votre oncle. Mais c'est qui ?» Bon, je sais pas, j'ai pas toutes les réponses. De toute façon, rien n'a d'importance. Moi, c'est ce que je pense, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et. Ok.
Ouais, et bien, elle semble épuisée et puis déprimée, ouais. Et puis. Ouais. Est-ce que c'est lié? Bah, du coup, ouais, c'est ça. La veille, elle a étendu le dôme, là. Et est-ce que ça l'a drainé complètement psychologiquement et puis physiquement?
Ah mais moi je pense pas. Moi je pense que c'est le fait que la rupture avec les problèmes avec Vision, le fait que en fait bon on peut peut-être y venir là, mais souvenez-vous que ça se passe quelques semaines ou même quelques semaines après Endgame. Donc la vie de Wanda jusque là, les dernières semaines en fait, c'est elle s'est battue dans Infinity War et elle a perdu, elle a vu Vision, elle a dû tuer Vision. Et puis, elle l'a vu revenir à la vie et se refaire tuer par Thanos. Et puis, elle est revenue et ils ont réussi à battre Thanos. Ok, super, mais elle vient de vivre la mort de la personne dont elle était amoureuse. Enfin, le synthozoïde dont elle était amoureuse. Et puis elle se rend compte que le Sword est en train d'expérimenter dessus. Elle se dit non mais ok, ça va, là ça suffit, elle le récupère. Cet univers a été créé et elle est replongée dans la mort de son jumeau, de son frère. Avant de se rendre compte qu'en fait, le frère revient, elle se dit mais c'est pas possible. Elle se rend compte que c'est pas son frère, donc elle doit accepter de le reperdre encore. Et puis là, à la fin, on va se rendre compte qu'elle va sans doute perdre ses enfants à nouveau. Oui, on peut dire qu'elle est déprimée, oui. Je crois qu'elle ne le prend pas très bien, on est d'accord.
Mais ce que je voulais dire par rapport à, du coup, à ce qui s'était passé la veille, c'est qu'elle s'est précipitée pour sauver Vision, tendre le dôme, et puis, tu vois, on pouvait s'attendre à ce qu'elle, à court, on va dire, le récupérer, ou tu vois,
elle l'a juste sauvé, meurt,
puis elle est partie se coucher, quoi.
Ouais, c'est ça. On a la scène où on est à l'extérieur du Hex et on voit très succinctement Hayden, comme tu dis, il va lancer quelque chose, une attaque, quelque chose, on ne sait pas quoi. Peut-être une équipe spéciale ou on ne sait pas. Et puis on revient très vite. Ah oui, d'ailleurs, le Hex a une sorte de forme d'hexagone qui visiblement ne peut pas être une vraie forme si tous les côtés sont un hexagone. Moi, je pensais que tu pouvais faire une sorte de dé à je sais pas combien de faces pour faire ça. Je pense que tu peux, mais certains ont dit non, c'est pas physiquement possible, faudrait que je vérifie.
Ah,
bref.
Ah, d'accord, ok.
et on revient dans le Hex avec la scène entre Vision et Darcy, avec un petit signe d'ailleurs dans le cirque, il y a foule de guesseurs, genre on trompe ceux qui essayent de deviner, qui est un message subliminal assez, assez marrant. Et puis, avant, on a cette scène là encore assez glaçante où Wanda fait une interview face caméra et elle dit « I'm fine, I'm fine, I'm fine ». I'm fine. Tu sais, et elle se transforme presque en Mrs. Hart du premier épisode.
Et je crois qu'il y a la pub, d'ailleurs, très vite, hein, à ce moment-là. J'ai l'impression que la pub est arrivée super vite par rapport à
d'habitude. Elle est un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard. Ouais. Mais oui, donc il y a I'm fine, I'm fine. Bref, on revient en dehors du ex et il y a Monica qui rencontre le Major Goodner. Monica et Jimmy Woo. Et Jimmy Woo a visiblement dans l'email qu'il a reçu de Darcy un petit message qui dit que Hayward a envoyé un email factice pour essayer d'atteindre Vision. Et c'est l'email qu'il avait eu dans l'épisode, il y a deux épisodes, je crois. Donc, c'était Hayward qui avait envoyé cet email. Mais elle rencontre Major Goodner. Alors, est-ce que tu crois que c'est l'ingénieur en astrophysique dont elle parlait, ce major un petit peu décevant?
J'avoue que c'est pas le... Je ne m'attendais pas à... Enfin, le physique, enfin, l'uniforme et tout ça, j'ai du mal à visualiser un ingénieur en aérospatial. Dans ce personnage-là, donc je suppose que c'est pas cette personne-là, mais bon, c'est vrai que du coup, je m'attendais quand même à voir un personnage. Je m'attendais pas à un grand personnage du truc, mais j'avais l'impression qu'il y avait un build-up sur cette personne, sur l'ingénieur, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça assez décent, de finalement
de pas le voir, quoi.
Du coup, de pas le voir, et puis du coup, bon, il y a le véhicule qui est là, et puis on va en parler maintenant, mais du coup, Monica va rentrer dedans. Et puis finalement, ça va pas servir non plus à grand chose, quoi.
Ouais. moi, je pense que c'est quelqu'un d'autre. C'est pas Major Goodner et que parce qu'en plus, elle dit I'm gonna meet my guy. Donc, tu vois, c'était genre on doit rencontrer et on le voit même pas. C'est vrai que c'était décevant, mais il doit être quelque part. Je pense que c'est pas elle et que c'est quelqu'un d'autre. Mais du coup, c'était peut-être juste une petite indication, un peu genre un petit pour dire il y a quelqu'un quelque part et on le verra plus tard. Mais oui, c'était clairement décevant. Pour suivre chronologiquement, on revient là à Darcy et Vision, et Darcy lui explique tout. Et donc Vision commence à comprendre ce qui se passe, et en même temps, il ne sait pas vraiment ce qu'il doit être, ce qu'il fait. J'ai bien aimé les scènes entre Darcy et Vision, moi.
Ouais, moi, l'inverse. J'ai pas trop aimé. J'étais assez déçu, moi, de la performance de... Du coup, de Darcy, de l'actrice.
Kat Dennings.
En escape artist. Je trouvais qu'elle collait pas avec cet univers sitcom de ces années-là. J'ai un peu décroché à ce moment-là. J'étais pas. Voilà. J'étais un peu. Alors que c'est une actrice que j'aime bien et j'aime surtout son personnage de Darcy dans Thor et Thor 2. Et puis j'aimais beaucoup aussi au début de la série. Et là, je sais pas, son acting. Après, c'est
j'ai l'impression que c'est pas une actrice complètement hyper bonne, tu vois. C'est plutôt une actrice qui se joue un petit peu. Et quand elle doit faire quelque chose d'autre, c'était dans Two Broke Girls, la sitcom dans laquelle elle était.
Ouais.
J'avais pas l'impression qu'elle était hyper différente de Darcy, tu vois, donc je comprends que ça soit un petit peu bon, voilà, elle arrive pas à faire des trucs incroyables, on va dire, mais c'est marrant le moment, je sais plus si c'est à ce moment-là, mais il y a Vision qui parle à la caméra encore et qui se dit mais attends, mais pourquoi est-ce que je suis là, il faut que j'aille voir ma femme, quoi, qu'est-ce que c'est que ces conneries.
Moi, c'est mon truc préféré de l'épisode, c'est les monologues de Vision,
les interviews,
face caméra, où il a une attitude que je trouve vraiment tordante, il se gratte, à un moment donné, ça m'a fait rire, je sais juste le fait que dans un se gratte, ça m'a fait rire, mais il a surtout un micro-cravate, tu sais, accroché, et puis il se lève, et puis il pousse la perche, et tout ça, et moi, je trouvais ça vraiment génial, et du coup, moi, cet enchaînement-là, ça m'a fait, enfin, je me suis posé la question à ce moment-là, si c'était vrai, s'ils étaient vraiment, en fait, je pense qu'on peut, c'est mieux d'en parler là, vu qu'on y est, mais... ils sont dans le véhicule, ils sont en train de rentrer. Les monologues se passent, du coup, la caravane arrêtée avec un siège sorti, du coup, ils sont assis devant. Et je me demande, c'est quoi la réalité de ces séquences-là? Parce qu'en plus, on sait que normalement, c'est, bah, du coup, on a eu le reveal que c'est Agatha hein, qui fait tout ça et qui a priori interview les gens.
Ouais.
Mais du coup, d'ailleurs, est-ce que ça se passe dans leur tête? Est-ce que tu vois
quand elle fait, quand elle parle, quand il y a le réalisateur qui parle à Wanda et tu sais, il dit, mais do you think maybe it's because what you deserve ou quelque chose comme ça?
Ah,
et
ouais,
elle dit, mais t'es pas censé parler, qu'est-ce que c'est que ces conneries? En fait, la voix du réalisateur qui est une voix d'homme, c'est la voix de Catherine Hahn, donc l'actrice de Agatha, de Agnès. Ouais. Qui a été downshifted, abaissé. Donc c'est vraiment elle. Ouais. Mais bon, peu importe. Mais en plus, ils disent Hayward et son major là ouais. qui est à côté que ça n'émet plus. Donc il y a plus d'émission en fait. Donc on ne sait pas vraiment ce que c'est, ce qu'il en reste quoi. Mais à vrai dire, je doute qu'ils réussissent à justifier le fait qu'il y ait même eu l'émission de. Tu vois, de la série depuis le début. Peut-être que c'était un moyen pour Wanda d'appeler à l'aide, tu vois. Elle a envoyé ses ondes pour essayer d'appeler à l'aide, d'appeler quelqu'un. Mais ça, c'est clairement ouais. un artifice de la série, quoi.
Ouais, ça pour moi, c'est une vraie question en suspens quand même, parce que du coup, il y a des choses super notables. C'est notamment le fait que l'émission soit, tu sais, elle est censurée. Tu sais, il y a une réalisation
oui.
À la
voix. C'est Wanda qui décide, ou quelqu'un qui décide quoi diffuser
alors,
et quoi
voilà,
ne pas montrer.
C'est Wanda, c'est Agatha, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est fait et je me demande si... Bon, j'aimerais bien quand même que la série trouve une fonction à cette émission-là, une raison d'être, plus que juste ouais. la forme, finalement.
Non, mais c'est... Tu veux dire au format, au fait que ça se situe dans des sitcoms des années précédentes?
Je suis sûr qu'ils vont expliquer.
Ils vont dire ouais, c'est ce que regardait
ouais,
Wanda
justement.
Quand elle était en Sokovie et voilà tu vois c'est juste pour la mettre
enfin,
à l'aise.
J'aimerais
et...
bien qu'il y ait quand même une explication sur le fait que ce soit diffusé même un truc du style
c'est Wanda qui appelle
Wanda,
à l'aide.
Tu vois mmh. Ouais mmh. mais voilà j'aimerais juste que ça soit tu sais juste
je suis sûr qu'ils vont dire quelque chose
explicité ouais. quoi là-dessus mmh. mais bon,
ouais. Pardon, on arrive à la pub, donc le Nexus, l'antidépresseur.
Ouais.
est-ce que tu as une explication à ce truc? C'était assez obscur. Hein.
Ouais, alors, du coup, alors moi, j'ai googlé Nexus Marvel hein, juste après avoir vu l'épisode. mais du coup, donc, c'est un antidépresseur. Donc, alors, je me souviens plus très bien, mais ça permet de revenir à la réalité ou à la réalité de son choix.
C'est ça.
Ouais. Et avec un certain nombre d'effets secondaires qui sont
feeling
assez
rigolos,
hein, rigolos entre guillemets, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, feeling your feelings, puis ou devenir encore plus dépressif.
Ouais.
Et du coup, Nexus, dans l'univers Marvel, ça a un sens assez précis, en fait. Et c'est pour ça que, du coup, je trouve que la pub, finalement, elle est bien plus précise que ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et du coup, Nexus, ça peut faire référence à deux choses. Et la première, c'est un endroit à partir duquel on peut accéder à différentes réalités. Comme un endroit où il y aurait plein de portails et on pourrait aller dans une ou l'autre des réalités. Et l'autre élément qui, là, pour le coup, est quand même très... qui tourne vachement autour de Wanda, pour le coup, dans les comics. Du coup, ça fait du sens, on va dire, dans Wanda Vision.
Ouais.
C'est qu'il y a ce qu'on appelle des êtres qui sont des êtres Nexus. Enfin, je ne sais pas si je veux dire
Nexi.
Nexai, si on fait au pluriel. Mais du coup, ces êtres-là, en fait, ils ont, voilà. Alors, c'est pas super bien défini dans les comics. Hein. C'est pas, il n'y a pas eu un. les auteurs n'ont jamais trop précisé ce qu'il y avait autour de ça. Mais grosso modo, ce sont des êtres qui sont importants dans le multivers. C'est-à-dire qu'ils existent en général dans toutes les versions. Dans tous les univers du multivers. Voilà. Et ils servent de point d'ancrage à la réalité. Donc, voilà. Mmh. Après. Ces êtres-là, en général, ils ont des pouvoirs en plus qui sont liés à cette caractéristique d'être des êtres Nexus. Et il y en a plusieurs hein, dans l'univers Marvel. Il y a certains Spider-Man qui le sont. Il y a des membres des Fantastiques, enfin, des Quatre Fantastiques. Et
ouais,
il y a Wanda.
Je crois
justement.
Que Valeria, peut-être. je ne sais plus si c'est Franklin ou Valeria. Et il y a effectivement Wanda. Qui est un être Nexus. Donc oui, encore une fois, un rapport, un lien, un raccrochage ouais. au multivers, quoi.
Et un truc intéressant sur ces êtres Nexus dans les comics, c'est qu'ils sont surveillés par une entité temporelle qui s'appelle la TVA, c'est quoi, c'est Time Variance Authority, qui est du coup l'entité qui va être actif dans la série Loki qu'on va voir bientôt, donc qui va récupérer Loki, qui va lui demander de faire des choses. C'est pas encore trop, mais du coup ça on va dire ça colle bien là. Je trouve que c'est un peu trop parfait, cette histoire d'être Nexus. Je pense qu'ils vont l'introduire pour de vrai, ou alors c'est peut-être juste un node et puis que ça fait le lien pour les fans avec tous ces univers là.
Ça explique un peu, Bah, disons que s'il y a effectivement la TVA, enfin oui, on sait qu'il y a la TVA dans, pas la taxe sur la valeur ajoutée, mais la TVA dans Loki, clairement, ça fait référence à ça, donc c'est intéressant, ouais. Même si, là, ils n'ont plus besoin de le dire explicitement, peut-être qu'ils le feront, mais clairement, on comprend quoi. Et d'une manière générale, j'ai bien aimé cette pub, elle était super bien faite et elle était assez drôle et bien réalisée en même temps. Bon, on passe ensuite chez Agnès, qui, on ne l'a pas dit, mais évidemment, elle a récupéré les jumeaux. Et Billy n'arrive pas à lire les pensées d'Agnès, il dit « Ah, c'est très silencieux dans ta tête, et je ne sais pas comment il faut le prendre, tu sais, c'est… » Bon, ok, on a encore le lapin un petit peu partout, et… Là, il y a quelque chose de sinistre qui se passe chez Agnès avec les enfants, mais c'est interrompu par Monica qui, effectivement, n'a pas réussi à passer la barrière avec son super machin militaire, mais qui décide, pour une raison un petit peu étrange, qu'elle peut passer toute seule. Tu dis, mais ok, mais pourquoi ? Bon, d'accord. Mais toujours est-il que il y a une très belle scène où elle passe à travers le Hex encore une fois, et avec plusieurs versions d'elle-même, des audios, des extraits audio du film Captain Marvel. Et puis quand elle arrive de l'autre côté, elle a les yeux qui brillent, elle voit les ondes électromagnétiques. Il y a beaucoup de gens qui disaient « Oh, elle réussit à voir ce qui fait l'illusion du Hex », mais pas du tout, c'est juste les ondes électromagnétiques, je pense que… Enfin, c'est l'impression
que j'ai. Oui, les flux d'énergie ou quelque chose comme ça, quoi.
Mais c'était vraiment centré sur les lignes électriques.
Ouais, c'est pas autre chose.
Donc, bon, bref.
Après, elle voyait tout le monde d'une couleur un peu…
Ouais, elle avait un filtre sur sa vision. Et donc, elle est un petit peu Photon, alias Spectrum, le super-héros qu'elle est dans les comics Marvel. Entre parenthèses, elle est également… elle était l'un des premiers Captain Marvel qui n'était pas Marvel, le guerrier Kree. Et elle était Captain Marvel avant Carol Danvers, il y a bien longtemps. C'était intéressant. Mais bon, son nom, a priori, ça sera Photon, puisque c'était le call sign de sa mère dans la série. Et elle a, en plus, en enlevant son costume d'astronaute, sa combinaison, elle a un petit peu les couleurs qu'elle a dans la série, les comics, de Photon.
J'ai adoré cette scène là d'entrée vraiment là, dans le dôme, vraiment super belle. Je me suis demandé du coup quand elle s'est fait, tu sais, quand elle est revenue du blip, il y avait un peu aussi cet effet de son, enfin de souvenir, on va dire, qu'elle avait. Tu sais, je crois que c'était Carole qu'on entendait parler. Et ils ont repris cet effet-là, mais du coup multiplié par plusieurs en même temps, etc. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment, une super scène, quoi. Puis avec ses yeux à la fin qui s'illuminent et tout ça, je trouve très iconique, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup cette séquence.
Elle était bien, ouais, j'avoue. Et du coup, je me demande si, par rapport à ses pouvoirs, on va en reparler, mais peut-être que elle a été blippée, donc peut-être que ça a changé un petit peu sa composition déjà. Mais en plus, elle est passée maintenant trois fois à travers le Hex. Et je me demande s'ils ne vont pas la faire passer une quatrième fois pour finir de montrer que ça lui donne des pouvoirs. Moi, je me dis, parce que si elle passe une fois et que ça change des trucs, tu dis, mais il y en a plein qui sont passés une fois. Mais là, ils ont insisté sur le fait que ça change au niveau moléculaire, machin. Et puis, elle est passée deux fois, donc plus que les autres. Alors... Et elle est passée une troisième fois et elle commence à avoir des pouvoirs. Et si elle passe une quatrième fois, tu dis, bon, ok, tu acceptes beaucoup plus que ça lui a donné des pouvoirs que si c'est juste elle est passée une fois ou deux, tu vois.
Après, je crois qu'il y a peu de il y a peu d'autres personnages qui sont passés. Il y a l'agent Franklin, hein, qui s'est transformé en apiculteur en passant de l'autre côté. D'ailleurs, on n'a toujours pas de nouvelles de lui. Moi, je suis inquiet. mais les autres, je pense pas qu'ils soient passés. Tu vois, ça s'est construit autour d'eux. Ça va probablement se déconstruire autour d'eux. Donc finalement,
ils sont passés à travers la barrière. C'est pas qu'ils soient.
Oui, t'as raison. Non, oui, j'ai pas pensé. J'avais oublié. Oui. Effectivement, tous les agents du SWORD, effectivement,
C'est ça.
Oui, eux sont passés, oui.
Oui, et même l'agent Franklin, il est passé... Ah non, il est passé en dessous. Il est passé par en dessous. Bon, c'est peut-être un petit peu...
Ouais, mais il y avait quand même... On le voit, il y a la séquence où on voit qu'en dessous, il y a aussi le...
Oui,
le champ, et il passe un peu difficilement de...
Ouais, enfin, mais c'était moins difficile que quand Wanda s'est énervée et qu'elle a rajouté la couche rouge, tu vois, quand c'est rouge.
Mais du coup, la particularité des passages de Monica, c'est qu'elle force aussi, hein, c'est que, tu vois, c'est pas volont, enfin, sauf la première fois, mais effectivement, quand elle sort, c'est violent, quand elle rentre, là, c'est encore à nouveau...
Ouais.
Tu vois, donc, et puis il y a eu le blip aussi en plus, donc, et on sent qu'il y a eu aussi un effet là-dessus, donc voilà.
Disons que même moi qui étais un petit peu bougon sur ça, sur le fait que ça lui donne des pouvoirs, si elle passe une quatrième fois, je dirais, je l'accepte. Déjà là, je me dis, allez. Ok, ça va, mais si elle passe une quatrième fois, je dis, bon, ok, allez, c'est bon. Mais donc, il y a la confrontation, on revoit le postier d'ailleurs, qui est maintenant un livreur genre UPS, ou d'ailleurs, il a un petit logo de lapin sur, sur la tête. Et puis, il y a la confrontation entre Wanda et Monica que je peux te laisser apprécier. C'était assez cool, mais...
Oui, c'était cool. Et puis là, du coup, y a un dialogue qui se crée. Et on sent encore une fois que Wanda est prête finalement à céder, en fait, à se dire, c'est vrai qu'il faut arrêter de déconner et tout ça. Et puis, y a Agnès qui veille et qui finalement va intervenir. Et puis voilà, et puis récupérer Wanda à ce moment-là. Super. Enfin, moi j'aime bien quand il y a des pouvoirs et tout, hein, surtout de ce type-là, un peu magie, etc. Donc là, elle se fait. Monica se fait, je sais pas comment on dit, attraper à distance un peu avec la force.
Ouais, comme de Wanda.
Star Wars. et puis elle atterrit avec un atterrissage de super-héros et tout ça.
Super-héros landing.
Voilà, c'est ça.
Mais elle n'a pas vraiment fait énormément de choses encore, donc c'est vraiment le tout début, c'est normal qu'elle n'a pas. Ouais.
Mais là, ce qu'on disait, c'est que l'épisode, effectivement, il ressemble, décidément, il ressemble vraiment à un épisode de transition. Hein. C'est-à-dire que les choses se mettent en place et on sent que la vraie baston, elle va arriver un peu après.
Quoi. Ouais. Et donc, on a Agnès qui vient récupérer. D'ailleurs, ça justifie un petit peu tout cet univers de sitcom parce qu'il faut un environnement dans lequel Wanda ne va pas questionner tout ce qui se passe, tu sais, et ça peut pas être la réalité. Si pour que Agnès arrive à ses fins, il faut qu'elle soit dans un environnement qui soit loin de la réalité, parce que sinon, elle va pas accepter tout ce qui est en train de se passer. Là, elle est dans cette sitcom et tu vois, si elle accepte qu'elle est dans la sitcom, c'est beaucoup plus facile à contrôler que si elle est dans la réalité et qu'elle est juste normale. Donc je sais pas, ça, pourquoi ensuite ça saute d'une décennie à chaque épisode? Peut-être qu'il faut lentement la ramener vers la réalité d'aujourd'hui parce que ça coûte plus d'énergie de... Je sais pas. Bon, bref, on verra.
Je pense que c'est pour grandir les enfants, surtout, mais...
Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Oui, mais ils grandissent plus, là. Ça fait 3 épisodes qu'ils ont 10 ans, donc ça marche pas trop. Bon,
je serais pas surpris qu'ils continuent à grandir, encore.
Ah oui, bien sûr. Mais là, je veux dire, ça a quand même fait 3 épisodes sans qu'ils grandissent. Donc, si le but de sauter les décennies, c'est de les faire grandir, ça marche pas bien, je trouve. On a Agnès qui prend Wanda chez elle et qui lui fait du thé. À chaque fois, il y avait le pchit sur les enfants, elle a amené des fleurs. À chaque fois, elle amène des trucs et peut-être qu'elle est en train de maintenir l'illusion grâce à ces trucs magiques de fleurs bizarres, là, comme c'était le cas dans la série d'ailleurs, dans le comics, il y a eu à plusieurs moments cette histoire. Et bien sûr, elle voit à la télé, d'ailleurs, la super série, là encore, de Jumpy Jump, 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 Jumpy Jump, 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 Jump. J'ai trouvé ça très entraînant. Et on arrive à la fin, au reveal. Elle va dans le creepy basement.
Elle cherche ses enfants.
T'as remarqué que l'aspect s'agrandit, l'aspect de l'image.
Ça fait partie des jeux de format qu'ils font. J'aime beaucoup en plus comme c'est progressif comme ça. Du coup, j'imagine qu'il y a un sens derrière. Est-ce qu'on est en train de sortir finalement est-ce qu'on retourne à la réalité à ce moment-là? Parce que du coup, on passe d'un format série à un format format cinéma en fait. Du coup, oui, je sais pas trop comment l'interpréter. Est-ce que c'est le retour à la réalité? Enfin, je pense que c'est le retour à la réalité.
Ça a l'air. Et donc, bon, ce basement, cette cave, effectivement, voilà. Pleine de plantes, de têtes, de crânes d'animaux, une sorte de temple satanique, et des symboles bizarres sur les piliers. Et puis un livre qui pourrait être le Darkhold, le livre des morts.
Il y a une aura rouge-orangée.
Avec, y a genre deux clés qui rentrent dans une serrure, on a l'impression, peut-être, comme deux enfants qui sont nécessaires pour ouvrir un portail vers quelque chose, je ne sais pas. Ça amène aussi, d'ailleurs, ça m'a fait penser à des histoires de morts et de vampires. Peut-être que ça peut introduire la logique pour avoir Blade et les vampires dans l'univers de Marvel, ça aussi. Mais bon, bref.
J'ai pas pensé à ça. Ouais. Ça serait intéressant.
Et puis, Agatha qui arrive. Peut-être quelques remarques, si t'as des choses, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire, mais sur la cave elle-même, t'as des choses que t'as interprétées
Là, moi, on parle de Mephisto depuis peut-être le premier épisode.
Ouais.
Là, j'ai envie maintenant de voir Mephisto. Parce que il y a tout pour faire une invocation de quelque chose, quoi. Enfin, clairement.
C'est clair.
Il y a le démon partout. Là, ça commence à devenir. Là, on a envie de savoir en fait qu'est-ce que veut Agnès, justement.
Ouais. J'ai adoré le mème que tu avais partagé sur le Discord, je crois que c'était toi qui l'avais partagé, avec les images. Dès qu'on voit un personnage dans la série, il y a tous les fans de Marvel qui disent « Mephisto, c'est Mephisto !» Agnès, c'est Mephisto. Le lapin, c'est Mephisto. Le postier, c'est Mephisto. Pietro, c'est Mephisto. C'est marrant. Et donc, le reveal de Agatha, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est... Évidemment, le truc... C'est marrant parce que dans la chanson, à un moment, ils disent « Ah, mais vous n'avez pas vu le truc venir, vous n'en êtes pas aperçu. » Et moi, j'étais outré parce que, évidemment, même depuis avant que la série n'ait commencé, tous les théoricrafters du monde disaient « Ah, mais Agatha, Harkness, Agnès, évidemment, c'est elle. » Sauf que peut-être que la chanson s'adresse à Wanda.
Ah oui, voilà. C'est vrai que pour moi, là, ce reveal-là, il peut facilement en cacher d'autres. Je pense que c'est vraiment Agatha Harkness, hein, et qu'elle a vraiment manipulé des choses, etc. Par contre, le cliffhanger, en fait, peut mener vraiment à plein d'autres choses derrière. Donc, effectivement, on n'est pas forcément super avancé parce qu'on se doutait que c'était effectivement un personnage inspiré d'Agatha Harkness à minima des comics. Donc, la surprise de ce côté-là, on va dire, je ne pense pas qu'on en tombait de notre chaise, hein, que ça s'appelait Agatha Harkness. Heureusement qu'il y avait la chanson derrière. Parce que voilà, après le vrai reveal, c'est effectivement qu'elle était en contrôle de plein de choses, notamment de Pietro. Donc on la voit, on revoit différentes scènes, et donc la scène où on voit Pietro sonner à la porte, on voit qu'il est entouré d'une aura violette, parce que du coup elle a une magie de couleur violette et Wanda a une magie de couleur rouge.
C'est pratique pour les différencier quand même. C'est très bien fait.
C'est pratique. Et du coup, elle manipulait des choses. Alors après, du coup, on voyait qu'elle faisait semblant pour Vision. Donc elle,
on avait l'impression pour l'éloigner.
Elle essayait, elle essayait de faire sortir Vision du dôme. Je pense que ça, c'est clair. D'ailleurs, elle essaye de l'écarter de l'équation dès que Wanda est enceinte, en fait.
Exactement, C'est tout à fait ça. Elle en avait besoin pour avoir les enfants. Et puis, dès qu'elle est enceinte, ça y est, on peut le virer, quoi. Avec Pietro, notamment. Pietro, il dit plusieurs fois « Ah, je suis la figure paternelle, machin, etc. Je crée des tensions. » Et du coup, on voit effectivement qu'elle se préparait son jeu d'acteur quand Vision arrive. Ce qui était un truc que les gens avaient remarqué, c'était bien foutu.
Et qu'elle est réalisatrice de la sitcom aussi.
Tout à fait. Donc c'est elle qui est derrière la plupart des choses. On en saura plus à l'épisode suivant. Sur le... La cave elle-même, comme tu le disais, on est vraiment dans un temple satanique. Pour ceux qui ne savent pas, on a déjà parlé de Mephisto. Je ne sais plus si on avait dit qui est Agatha. Agatha, dans les comics, c'est un personnage qui est un petit peu ambivalent. Alors, c'est une sorcière qui vit depuis combien, genre 10 000 ans, un truc comme ça, qui est immortelle et qui a notamment fait partie des sorcières de Salem, qui a été jugée au procès et qui a survécu et qui a créé une communauté de sorcières et qui a un fils qui s'appelle... Comment il s'appelle? Scratch, je crois.
Nicolas Scratch.
Elle est parfois gentille, parfois méchante, en fait. Elle est un petit peu entre les deux, et elle est notamment la nounou des enfants des Fantastic Four, des quatre fantastiques, de Franklin et Valeria. Dans les années 60, et c'est là qu'elle apparaît pour la première fois, et elle a été développée ensuite. Elle a notamment un lien très fort avec Wanda, et elle a, dans les comics également, implanté l'idée d'avoir des enfants à Wanda, qui les crée à partir, alors ça a été retconné plusieurs fois, mais elle les crée à partir d'un fragment d'âme de Mephisto. Fragment d'âme que Mephisto veut récupérer dans les comics toujours. Et donc là, on peut se demander ce qui est advenu de Billy et Tommy. Est-ce qu'ils sont capturés? Est-ce qu'ils sont morts? Qu'est-ce que tu crois, toi?
Je pense que pour l'instant, ils sont peut-être prisonniers. Et j'imagine facilement que comme elle avait l'air de vouloir les faire grandir, tu sais, avec le deuil du chien notamment, etc. Ouais. Je me demande si on les reverra pas plus grands la prochaine fois déjà.
Possible.
C'est quand les verras, ils auront 20 ans.
Dans la chanson, tu sais, dans la chanson, il dit, dans la chanson, à un moment, c'est « And it's too late to fix anything ». Et donc, elle se révèle au moment où ce qu'elle voulait est déjà fait. Moi, je ne pense pas qu'on va pouvoir corriger le problème. Et là, on en arrive à la conclusion possible de l'épisode et même le but de la série. Imagine qu'en plus de tous les traumatismes qu'on a évoqués jusqu'à maintenant, Wanda perdent et ne réussissent pas à sauver Billy et Tommy, déjà qu'elle est plus très bien dans sa tête, je pense qu'elle pète complètement les plombs. Possiblement qu'elle devienne un méchant pour un Doctor Strange 2 and the Multiverse of Madness, ou alors peut-être qu'elle fait un truc et qu'il faut la recentrer pour la sauver, mais qu'elle fait un truc qui est du niveau de ce qu'elle a fait dans les comics. Pour ceux qui ne le savent pas, là encore, il y a cette phrase, l'une des phrases les plus iconiques de tous les comics Marvel, qui est quand Wanda dit « No more mutants » à la fin de House of M, que vous devriez lire d'ailleurs, c'est une très bonne série, House of M, House of Magneto, et House of Magnus, pardon, mais il y a un moment, elle a été tellement malmenée, elle en peut tellement plus, qu'elle dit « plus de mutants », et elle réécrit la réalité en faisant perdre leur pouvoir à 90% de la population des mutants de l'univers des comics. Et c'est un moment hyper important. Bon, il y avait une raison différente à ça, qui était en dehors des comics, parce qu'il y avait trop de mutants, ça devenait le bordel. Mais oui, c'est inséré dans l'histoire.
Et puis surtout, la licence était à la Fox, et qu'il fallait probablement
marketer les
comics
peu.
Autrement. Ouais, c'est ça.
Ouais.
Je ne sais pas si c'était lié à ça, mais moi, c'est comme ça que je l'avais interprété.
C'est possible aussi, ouais. Mais donc, là, il est possible que, t'imagines, avec tous les traumatismes, comme on disait, qu'elle a vécu, si en plus elle perd ses enfants, parce que pour elle, c'est ses enfants, il est possible qu'elle pète les plombs, quoi. Et il est trop tard,
j'ai du mal à la voir. Je trouve qu'elle a déjà un personnage qui a subi beaucoup de... Enfin, voilà, qui a beaucoup de choses sur le dos, déjà. En plus, elle a déjà été méchante. Enfin, elle a été introduite en antagoniste dans Avengers. J'aimerais bien... Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, que je trouve super badass, et que j'aimerais bien plutôt voir, justement, côté gentil, côté encore gentils. Un petit moment. Donc, j'espère... On sait qu'elle est dans le prochain Doctor Strange,
ouais.
J'espère qu'elle sera du bon côté de
j'espère aussi, je t'avoue. J'espère, moi je veux qu'elle soit une gentille, mais je crois que ça serait un personnage encore plus intéressant si elle a un moment, peut-être que c'est juste un moment, elle fait un truc, tu sais, elle fait une explosion d'énergie et ça, je sais pas, là encore ça amène les mutants ou un truc comme ça, mais il est possible aussi qu'elle devienne une méchante pendant un petit moment et puis ça ferait un personnage plus intéressant quand elle serait redevenue gentille.
Après, comme tu disais, le fait qu'elle ait été méchante, déjà fait, hein, donc...
Ouais, mais moi je crois, il est possible que le mal soit déjà fait et qu'elle ne puisse pas.
Si Agatha a ouvert des chemins vers le multivers et est partie foutre un peu le boxon, enfin, qu'une entité est partie foutre le boxon ailleurs et que ce sera peut-être du coup à Wanda et Doctor Strange d'aller réparer tout ça. Donc.
Peut-être un peu, c'est peut-être juste pour ramener Mephisto, parce que Mephisto, c'est un être qui est omnipotent dans sa réalité, qui est un petit peu le Satan, on va dire. Mais peut-être qu'il a besoin de cette ouverture de porte pour avoir accès à notre réalité. Peut-être que c'est ça le but, mais que Wanda, quand elle va péter les plombs, si elle pète les plombs, ça va faire un autre truc qui serait l'arrivée des mutants, ou peut-être que c'est une histoire c'est elle qui va ouvrir des portes vers d'autres réalités encore plus, ou je sais pas, mais je veux qu'elle soit gentille, mais je pense qu'il n'est pas impossible tu sais, l'un des principes de Marvel, c'est l'impermanence dans la permanence. C'est-à-dire qu'il te donne l'impression que les choses changent, mais en fait, c'était l'un des principes qu'évoquait Stan Lee. Il te donne l'impression que les choses changent, mais en réalité, elles sont toujours les mêmes. Et le fait que Wanda devienne vraiment méchante pendant un moment, et c'est marrant parce qu'elle est effectivement ambivalente, comme le disait Hayward, elle était méchante au début, et puis elle a quand même tout pété dans les événements de Civil War, enfin tout pété, provoquer les événements de Civil War, et puis là, si elle redevient un petit peu méchante, c'est un personnage qui est intéressant, je trouve. Il n'y a pas que des super gentils ou des super méchants. Malgré elle, tu vois, c'est un personnage tragique, mais moi, j'aimerais bien qu'elle soit gentille quand même et qu'à la fin de la série, elle fasse équipe, soit prête à faire équipe avec Doctor Strange pour le 2, mais bon. Bref, la scène post-crédit... Et on va finir avec ça. Monica est en train de chercher, mais où peut bien être Wanda? Quelle est cette étrange Agnès? Qu'est-ce que c'est que cette maison? Et elle ouvre la porte et elle voit Pietro, qui est encore là. J'avais eu bien peur qu'il ne soit plus là, mais il est encore là. Il dit « Snooper gonna snoop ». Et donc, on s'attend à une confrontation entre les deux.
Et il y a un plan, du coup, sur Monica, et on voit qu'elle a les yeux violets, comme ceux de Wanda, quand elle se fait ensorceler par Agatha et qu'elle voit le générique. Donc, donc Monica semble être aussi, du coup, à ce moment-là, sous l'emprise de la magie d'Agatha. Et puis là, c'est Cliffhanger.
Et oui, et donc, on ne sait pas. Et d'ailleurs, on a vu Pietro, il y avait une ombre derrière la porte. On se demande si ce n'est pas le lapin qui se transforme en Pietro.
Alors, j'ai vu cette histoire et... ouais, moi, je suis pas convaincu. Ça peut facilement être l'équipe technique ou...
c'est clair, on se raccroche.
Du film, ouais.
C'est on trop, se raccroche on va dire, tellement c'est à des branches, surtout. C'est
invisible pour moi pour que ça soit volontaire. Quoi.
C'est possible. Mais bon, donc on aura...
Et du coup, voilà. Donc là, tout est encore un peu ouvert hein, quand même sur le dénouement. Il nous reste deux épisodes. J'espère plus que je ne le pense, mais je pense que ce sera un épisode flashback.
Ouais.
Pour pouvoir expliquer un peu comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et puis après, ça permet de derrière faire un final, du coup, avec tout.
Un gros combat de fin avec tout le monde qui se tape dessus.
Parce que du coup, il manque encore quand même pas mal de pièces de puzzle sur justement, on décrivait le parcours de Wanda là, depuis Infinity War, mais du coup, effectivement, comment est-ce qu'elle est arrivée dans cette ville, pourquoi. Moi, j'ai encore plein de questions en fait, et. Pour moi, c'est probablement des questions qui peuvent être résolues dans des flashbacks, comme justement c'est la fameuse personne qui était sous protection des témoins que venait chercher Jimmy Woo. Je serais déçu que ce soit pas quelqu'un, enfin que ce soit pas traité quoi. Je veux aussi savoir du coup qui est Pietro, du coup aujourd'hui on ne sait pas si c'est vraiment le frère d'une autre dimension, si c'est juste l'apparence du frère de Wanda dans une autre dimension, ou si c'est juste quelqu'un au hasard et qu'ils auraient pu prendre n'importe quel acteur, c'était pareil. Donc ça
c'est tu sais c'est juste pas possible. Si c'est ça, je suis très très fâché avec Kevin. À mon avis, ils ont pris l'apparence de quelqu'un d'une autre dimension au minimum, parce que ça peut pas, tu peux pas, c'est pas possible.
Tu vois, moi, c'est là où je suis piégé, en fait. Parce que du coup, moi, je voulais que le MCU n'ait jamais rien à voir à faire avec les univers Fox et Sony. Vraiment, moi, c'est le truc que je voulais pas. Je suis très friand de multivers et tout, mais alors pas vers chez eux, parce que j'aime pas trop leurs films. Et du coup, je me retrouve dans une situation où, de toute façon, maintenant, le parallèle est fait. Ça y est, il y a Pietro des X-Men. Et maintenant qu'on en est là, j'ai pas envie que ça soit juste pour rien, quoi. Mais tu vois, c'est à la fois, j'avais pas envie que ça soit lié, et maintenant que c'est fait, voilà, allez-y, quoi.
Ce que tu veux dire, en fait, c'est que and the pity is that it's too late to fix anything now that everything has gone wrong.
C'est ça.
Bon, on peut essayer de fixer un peu quand même. Ouais. Ben, on verra ce qui se passe. Effectivement, beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien un flashback, peut-être pas tout un épisode flashback, mais au moins une partie pour expliquer comment Wanda a, enfin, pas rencontré Agatha, mais comment Agatha s'est insérée dans cette vie et qu'est-ce qui s'est passé après tout ça.
Les pouvoirs de Wanda sont quand même drastiquement différents avec ce qu'on connaissait d'elle aussi, donc qu'est-ce qui a fait que ses pouvoirs se sont décuplés d'un coup, enfin, je trouve qu'il y a plein de choses à traiter, c'est pas forcément des grandes explications incroyables, mais au moins juste les traiter et dire bah voilà, même si c'est juste
ça
bah,
va être
c'est
une
Agatha
scène...
qui a fait sa magie et qui a augmenté la magie de Wanda, pourquoi pas,
ça va être une scène de 10 moi, secondes où Agatha la rencontre, elle lui file un thé, tu sais, et elle dit deux invocations, et c'est genre voilà, ça y est, tout est fait. Ça va être 4 secondes.
Alors du coup, si il y a quelque chose que je voulais dire, que je voulais te dire, mais du coup là, on a un univers qui est en train un peu de, tu sais, de se. Bah, on parlait des manettes de jeu, mais il y a aussi la brique de lait, puis les meubles,
oui, bien
etc.
Sûr, beaucoup,
tout est en train de s'effondrer. Et je retrouve un peu dans Wanda là, le personnage de l'île déserte de l'épisode d'avant, tu sais, un peu fatigué, qui a de plus en plus de mal finalement à accéder à ses pouvoirs et à les utiliser. Donc voilà.
C'est vrai, ouais. J'y avais pas pensé. Mais
mon interprétation de la dernière fois est probablement juste.
Ah, comme toujours, tu es
J'avais raison, le long.
C'est vraiment Johan was right all along. Super, bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment de geekerie avec moi.
Ouais.
On va refermer cet épisode et il ne vous reste, bonne nouvelle, il ne vous reste plus que 3 ou 4 jours avant de voir l'épisode suivant. Donc j'espère qu'on vous aura fait patienter un petit peu, qu'on vous aura aidé dans cette attente insupportable. Johan, avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
Eh ben, on peut me retrouver sur Twitter à JohanT_. Ou sur le Discord de French Spin, du Rendez-vous Tech.
Le Discord, vous pouvez y accéder pour parler du dernier épisode de Super Laser Punch en allant sur notepatrick.com. Il y a un petit lien vers le Discord public en haut à droite. Et vous pouvez aussi retrouver sur notepatrick.com tous les liens vers tout ce que je fais, y compris les podcasts Le Rendez-vous Tech et Le Rendez-vous Jeu, où on traite de l'actu du jeu vidéo et de la tech chaque semaine. Vous pouvez aussi me trouver sur Twitter. Je suis NotPatrick absolument partout. Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Donc voilà, c'est notepatrick.com pour tous les liens. Et je pense qu'on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.